Story, une histoire, une œuvre d'art. Cette semaine, Paul Durand-Ruel et l'aventure impressionniste. Oseur impénitent pour le critique d'art Octave Mirbeau, missionnaire de la peinture pour son ami le peintre Renoir, Paul Durand-Ruel fit de l'impressionnisme le combat de sa vie. Il fut le premier marchand à défendre les artistes de la modernité, alors mal aimés. J'avoue que malgré mes tristesses et mes tourments, la lutte a toujours eu un certain charme pour moi. C'est ainsi que Paul Durand-Ruel s'exprime dans ses mémoires, en préambule de l'histoire extraordinaire de sa vie, celle du marchand d'art qui fut le mécène, l'ami et le protecteur de jeunes artistes incompris durant deux générations, de Delacroix à Monet. Il les mena à la reconnaissance, sans jamais fléchir, engageant sa fortune et son image. Fervent catholique, monarchiste convaincu et anti-Dreyfusard, il resta pourtant fidèle aux artistes, du juif Pissarro à Courbet le communard, d'exposition en salle de vente et de critique en calomnie. L'impressionnisme, vilipendé au milieu du XIXe siècle, peinture affreuse, sans intérêt, faite par des fous, il finira par l'imposer, comme il imposa la Belle École de 1830, acquise pour une bouchée de pain et revendue 30 ans plus tard 100 fois son prix. Comble de ce destin hors du commun, le jeune Durand-Ruel ne souhaitait pas devenir marchand, préférant se destiner à une carrière militaire ou religieuse. La vie en décida autrement, comme s'il devait, malgré lui, jouer un rôle dans cette histoire de l'art qu'il connaissait pour l'avoir regardé au mur de la papeterie parisienne de son père, rue Saint-Jacques, qui exposait déjà des paysagistes anglais, comme Bonington ou Constable, aux côtés de l'école de Barbizon. Les artistes payaient le marchand de couleurs en tableaux. Durand-Ruel grandit au milieu des œuvres de Delacroix, Géricault, Théodore Rousseau, Camille Corot, Jules Dupré et Jean-François Millet. Des peintres pas toujours bien vus par l'Académie, un peu à la marge, les refusés du salon, qui deviendront les artistes de la modernité dont il sera l'ardent défenseur. C'est en 1851, après avoir été reçu à Saint-Cyr, qu'il tombe malade et doit se résigner à travailler au magasin familial qui s'est installé au 82 rue Neuve des Petits Champs et s'impose dans le commerce de tableaux modernes. L'époque est difficile pour la jeune génération de peintres dont les œuvres partent à des prix ridiculement bas en vente publique, ce qui explique comment de merveilleuses collections ont pu être constituées par des amateurs visionnaires qui achetaient en masse et dont Durand-Ruel fit partie. Sa vocation naît réellement en 1855, lorsqu'il découvre Eugène Delacroix à l'exposition universelle dont il achète en 1866, l'assassinat de l'évêque de Liège, puis beaucoup d'autres tableaux jusqu'à la célèbre mort de Sardanapale en 1873 à la vente Wilson pour le prix fou de 96 000 francs. Une pratique boulimique d'achat et de revente qui témoigne de son audace et de ses goûts tranchés. Il n'achète que ce qu'il aime et fait monter les enchères pour contrôler les cotes et gonfler les prix, et va parfois jusqu'à acheter la moitié des ventes publiques. Ainsi, entre 1865 et 1870, il se fait connaître comme expert dans l'intimité des salons et l'agitation des salles de vente. Sa réputation s'amplifie lorsqu'il ouvre sa galerie au 1 rue de la Paix, puis plus tard dans les grands locaux du 16 rue Lafitte, la rue des tableaux comme on l'a surnommée. L'école de 1830 y est exposée, avec des artistes encore méconnus qui s'appellent Monet, Pissarro, Renoir, Degas et Sisley, dont il fait l'acquisition de premières toiles pour presque rien en 1871. À l'époque, un Pissarro vaut à peine 200 francs et un Monet 300. Il rencontre ce dernier à Londres, où il se réfugie pendant la guerre franco-prussienne, par l'intermédiaire de Daubigny et lui achète tous ses tableaux. De la même manière pour Pissarro qui dépose deux toiles à sa galerie et qu'il s'empressera de recontacter. En 1872, il acquiert la totalité de l'atelier de Manet, 23 toiles pour 35 000 francs, puis fait la connaissance de Degas et Berthe Morisot. C'est ainsi que débute l'aventure impressionniste, qui deviendra sa profession de foi malgré les difficultés financières. Durand-Ruel doit en effet ralentir son activité entre 1874 et 1883, au moment où les premières expositions impressionnistes ont lieu à Paris. Les artistes sont inquiets, car il n'est pas uniquement leur marchand, il est celui qui loue leur logement et achète leurs fournitures. « Sans Durand, nous serions tous morts de faim », avouera Monet. Il consolidera son activité en 1893 avec la création de Durand-Ruel et fils, qui jouit d'un stock de grande valeur et prépare ses fils à continuer l'activité. On dit que plus de 12 000 tableaux passèrent entre ses mains. 500 Corot, 200 Manet, 1000 Monet, 400 Sisley, 800 Pissarro, 400 Degas, le même nombre de Cassatt et plus de 2000 Renoir, des chefs-d'œuvre qu'on admire aujourd'hui et des chiffres à faire tourner les têtes. Lorsqu'on regarde ces livres de stock, on imagine les transactions, les va-et-vient des achats et des reventes, les bonheurs éphémères ou les satisfactions durables d'un passionné qui côtoyait les collectionneurs et les premiers amateurs d'impressionnistes, comme le baryton Faure, le critique Théodore Duret, l'industriel Osquédé, le comte Isaac de Camondo ou l'industriel Henri Rouard, dont la vente de la collection en 1912 fera forte impression. Ils furent des clients et des soutiens précieux, ne cessant d'acheter et de croire en la nouveauté. Spéculateur ou génie, pionnier, sans aucun doute, de ces intermédiaires marchands aux allures de businessman qui sut imposer ses goûts artistiques pour fabriquer des tendances. Durand-Ruel s'étonnera lui-même des revirements des prix entre 1870 et 1900, auxquels il participe en rachetant plusieurs fois un même tableau. Le Fifre de Manet, qu'il achète 1500 francs en 1872, sera revendu à Faure pour 2000 francs, puis pour 30 000 francs à Camondo. Le Pont de Mantes de Corot, acheté 800 francs, se revendra 40 000 francs des années plus tard. De même, la Musique aux Tuileries de Manet, achetée 2000 francs en 1872, est revendue 126 000 francs en 1906 à Hugh Lane, qui est aujourd'hui à la National Gallery. Des satisfactions tardives qui l'ont conforté dans ses choix de montrer ses peintres pour qu'ils prennent de la valeur, comme quand il décide d'ouvrir son appartement du 35 rue de Rome pour y présenter sa collection privée. Le déjeuner des canotiers et la dolente jeune fille au chat noir y font l'admiration des collectionneurs, parmi lesquels les Américains James Sutton et le couple Duncan et Marjorie Phillips. Ce petit musée de l'impressionnisme est même conseillé par les guides touristiques. Cependant, Durand-Ruel ne fut pas le seul marchand des impressionnistes et il aura à subir la concurrence de Georges Petit et Théo Van Gogh notamment. Mais il fut le plus énergique, usant d'une stratégie très efficace. Il organise le premier des expositions monographiques qui contribue à faire émerger les personnalités artistiques des impressionnistes. C'est ainsi qu'il montre les séries de Monet et des expositions à l'étranger dans ses galeries de Bruxelles et de Londres, puis à New York, où il fait une première exposition en 1886 grâce à Marie Cassatt et où il ouvre une galerie en 1887. Le succès est retentissant outre-Atlantique. Plusieurs collectionneurs, dont les Ave Meyer, achètent des toiles qui entreront plus tard dans les musées américains. « Sans l'Amérique, j'aurais été perdu », écrit-il. En France, la reconnaissance peine à venir. Malgré le legs Caillebotte qui fait entrer 38 toiles dans les collections nationales, le triomphe n'interviendra qu'en 1905, à Londres, lors de l'exposition aux Grafton Galleries, qui consacre Paul Durand-Ruel comme défenseur le plus acharné de cette peinture d'avant-garde si longuement critiquée. Son combat arrivait à sa fin, son pari était gagné. Il était reconnu comme le plus grand marchand des impressionnistes et la vie de la galerie familiale se poursuivra bien après sa mort. À New York jusqu'en 1950 et à Paris jusqu'en 1974. À l'automne de sa vie, sa mission accomplie, il écrira « Enfin, les maîtres impressionnistes triomphaient, comme avaient triomphé ceux de 1830. Ma folie avait été sagesse, dire que si j'étais mort à 60 ans, je mourrais criblé de dettes et insolvable. » parmi des trésors méconnus. C'était Paul Durand-Ruel et l'aventure impressionniste dans Art Story, une histoire, une œuvre d'art.